enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà ce qui est écrit, Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes dans une série de 40 jours où nous nous posons cette question, quel est le but de la vie? Quel est le sens de notre vie? Et nous voyons qu'au travers de ces 40 jours, qu'il y a 5 objectifs. Nous avons vu que le premier objectif, c'était l'adoration, c'est-à-dire aimer Dieu, le connaître et l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, toute notre pensée. Nous avons vu que le deuxième objectif, c'était la communion, aimer la famille de Dieu. Parce qu'il y a de l'amour dans ce lieu ce matin. Vous pouvez dire à votre voisin, je t'aime, tu sais, je t'aime gros. Hein? C'est la communion. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier que nous avons été faits pour ressembler à Christ, le discipola. Nous avons été faits pour ressembler. Dieu a pour suprême vocation pour notre vie que nous ressemblions à son Fils, Jésus. Waouh ! Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Ça marche ? Vous ressemblez à Jésus ? C'est le but, c'est l'objectif. Et nous sommes dans le processus de transformation. On dit, Seigneur, je veux te ressembler de mieux en mieux, transformer de gloire en gloire. Et aujourd'hui, nous voyons donc le quatrième objectif. Vous avez été formés pour servir Dieu. Pour servir Dieu. C'est ce qui s'appelle le ministère. Et là, nous avons lu dans ce verset que nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre, il nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour, pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé pour chacun d'entre vous des bonnes œuvres. Dieu a déjà tout préparé, c'est en stock, tout est là. Mais ces bonnes œuvres qui ont été préparées, c'est afin que nous les pratiquions. Certains disent, c'est la bonne volonté qui compte. Ah, j'aurais bien fait quelque chose pour toi quand tu étais malade et quand tu avais besoin. J'ai pensé à toi. Ah, ça me fait du bien ce que tu me dis. C'est la bonne volonté qui compte. Ben, si tu avais été là, ça aurait été bien aussi. Hein. Non ? Ah, il y avait besoin d'aide, il y avait besoin, on a pensé à toi, ça ne suffit pas de penser. Ça ne suffit pas d'avoir compassion. Il faut mettre la main à la pâte, il faut travailler, il faut pratiquer. Ça ne suffit pas de dire, oui, il y a Dieu qui a préparé des bonnes œuvres pour moi, Dieu veut que je fasse le bien, mais faut-il encore maintenant que nous servions, que nous pratiquions les œuvres que Dieu a fait, qu'il a préparées d'avance pour nous. Nous allons voir durant cette semaine, dans vos lectures quotidiennes, vous allez voir que Dieu se sert de notre profil spirituel pour déterminer notre ministère, ce à quoi il nous a destinés, il nous a préparés, quelles sont les œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est une question de don spirituel, c'est une question de cœur, c'est une question de capacité. C'est une question de personnalité, et c'est une question aussi d'expérience, ce qui donne l'acronyme SUPER. SUPER. Il y a un SUPER pour chacun d'entre nous. Dieu veut, au travers des dons spirituels, nous préparer au service. Dieu veut travailler notre cœur, qu'on y mette notre cœur, veut encore nous rendre capables et capacités, venir changer notre caractère, notre personnalité. et au travers d'expériences venir nous façonner pour que nous soyons de bons serviteurs. C'est ce qu'on appelle super. Mais on verra ça, vous verrez ça en lisant quotidiennement les chapitres durant toute cette semaine. Le service de Dieu, le service pour Dieu, et comprenez-le bien, c'est servir les autres. On ne peut pas servir Dieu sans s'occuper des autres. Servir Dieu, c'est servir les autres. Servir Dieu, c'est pas être juste dans sa chambre, en train de prier, en train de louer, et de dire « je sers Dieu ». Non, tu adores. Tu es dans un temps de louange et d'adoration. Mais servir Dieu, c'est servir les autres. Il ne faut pas confondre l'adoration et le ministère. L'adoration, c'est ce temps personnel que l'on passe avec Dieu. C'est notre être tout entier, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. C'est bien plus que des chants, on l'a vu ensemble. C'est bien plus qu'un temps de prière. C'est là aimer Dieu. Mais servir Dieu, c'est servir les autres. Dieu attend de nous qu'on serve les autres. Le quatrième objectif, et vous pouvez le noter, c'est servir Dieu en servant les autres. Servir Dieu en servant les autres. Si quelqu'un n'a pas de stylo, qu'il lève la main, on va lui en donner un simplement. Servir Dieu en servant les autres. Est-ce qu'on est prêt à servir Dieu? Tout le monde dit oui. Est-ce qu'on est prêt à servir les autres? Oh! On ne peut pas servir Dieu si on ne sert pas les autres. Le ministère, servir Dieu, c'est servir les autres. Jésus lui-même pouvait dire, dans Matthieu 20, 28, on a ce passage, vous l'avez dans le bulletin, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour servir. Le quatrième objectif de notre vie, c'est de servir. Et si on n'a pas cet esprit de service, il nous manque quelque chose. On passe à côté de la volonté de Dieu pour notre vie. Durant ces 40 jours, oui, on synthétise, on schématise. La volonté de Dieu, les objectifs de Dieu pour notre vie en 5 chapitres, en disant il y a 5 axes sur lesquels Dieu nous attend. Mais notez bien que le service, quelque chose de capital et d'important, sont tous importants. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Qui de mieux placé que Jésus pouvait prétendre à être servi en tant que fils de Dieu, en tant que roi des rois, en tant que prince, en tant que seigneur? Qui de mieux placé que lui pouvait prétendre à être servi? Mais il dira, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Jésus mit le comble à son amour en servant. En prenant l'attitude, l'apparence, le cœur d'un serviteur. Nous avons vu la dernière fois que Dieu attend de nous que nous ayons les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Et parmi ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il y a le service, le ministère. Et si nous prenons Jésus, et c'est bien, il faut le faire, prendre Jésus comme notre modèle suprême. Je veux être comme lui. Je veux imiter Jésus. Eh bien, regardons de quelle manière il a servi. Quel était son service? De quelle manière il a servi Dieu en servant les autres? Et nous y découvrirons de quelle manière Dieu attend que nous le servions en servant les autres. Apprendre à servir comme Jésus. C'est ce que je vous propose ce matin, qu'on puisse réfléchir quelques instants à apprendre à servir comme Jésus. Premièrement, apprendre à servir comme Jésus, servir comme Jésus, ça veut dire être... Et puis là, vous avez un vide. Servir comme Jésus, ça veut dire être disponible. Être disponible. On a un verset en exemple, c'est celui de cet épisode où Jésus est en route, il marche. Et voilà que deux aveugles s'écrient, « Jésus, aie pitié de nous, Seigneur !» Et il dit que Jésus s'arrêta. Il les appela. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Et il les guérit. Certains disent, « Nous, on veut étudier comment Jésus, on veut suivre Jésus. On veut marcher dans ses pas. » Mais quand on regarde d'une manière objective tous les miracles, comment Dieu, comment Jésus est intervenu sur la terre, peut-être 90% des miracles de Jésus dans les évangiles, c'est lors d'une interruption. C'est lors d'un changement de programme. Jésus est en train de marcher. Il part de Jéricho jusqu'à Jérusalem, mais on interrompt ce que Jésus est en train de dire. Il est interrompu. Et il se laisse interrompre. Il est disponible. Jésus est en train de parler, de prêcher dans une maison. Et voilà qu'on descend du toit, un paralytique. Jésus se fait interrompre. Et il est disponible encore. On voit Jésus qui est en chemin. Et voilà qu'il y a un cortège funèbre, un mort que l'on va enterrer. Le fils d'une veuve de Naïm. Jésus se laisse interrompre. Et il ressuscite ce mort. Réfléchissez. 90%, je n'ai pas fait le compte exact, ça mériterait la peine de le faire. Mais la plupart des miracles de Jésus ont été des interruptions. Non pas des choses qu'on dit, bon, ben voilà, maintenant on va ordonner, on va préparer, je vais noter dans mon agenda, à telle heure je dois guérir un aveugle, à telle heure on va s'occuper du paralytique, et puis il faudra prendre rendez-vous. Guérison, ce rendez-vous. Un peu comme un médecin ou je sais pas qui. Non, ça marche pas comme ça avec Jésus. Jésus se laisse interrompre. Il n'y a pas marqué « ne pas déranger ». Est-ce que des fois, sur votre bureau ou chez vous, dans votre chambre, des fois les enfants mettent « interdit d'entrer, ne pas déranger ». On entend la musique de l'autre côté, on dit « ah, ça doit être sérieux ce qu'ils font là ». « Ne pas déranger ». Dans notre vie, on peut dire « ne me dérangez pas ». Proverbe 3, 28 dit « Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux donner immédiatement ce qu'il te demande. » Laissez-vous déranger. Laissez votre programme être perturbé. Ça veut dire être disponible. Être prêt à changer de programme. Être prêt à consacrer du temps aux autres. Servir les autres, c'est être disponible pour les autres. Ce n'est pas de dire « j'ai pas de temps pour toi aujourd'hui ». Ah, tu as un grand besoin, tu as une grande difficulté, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Jésus se rendait disponible. Le premier obstacle à servir Jésus disponible, un premier obstacle que l'on peut considérer, c'est l'égocentrisme. Premier obstacle, l'égocentrisme. Ça veut dire quoi ça, l'égocentrisme ? L'égocentrisme, ça veut dire regarder à soi et de dire « moi d'abord, les autres ensuite ». L'égocentrisme, ça veut dire ne pas déranger. Je suis trop occupé à mes affaires personnelles que personne ne vienne me déranger. Ce que je suis en train de faire pour moi est plus important que ce que les autres attendent. Ne pas déranger. Jésus s'est fait déranger tout le temps. Même à un moment, il dit à ses disciples, on va aller à l'écart, on va aller prendre du repos, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé fort. Et Jésus prend ses disciples en disant, on va être dans un lieu désert à l'écart. Et alors qu'ils arrivent dans un lieu pour être à l'écart, une grande foule est déjà là, en train de les attendre. Et nous dit que Jésus a eu compassion de cette foule et a guéri tous les malades qui étaient là. Il s'est laissé déranger quasiment tous les jours de sa vie. Lorsqu'il était sur la terre. C'est notre modèle. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à nous laisser déranger et à dire « je veux être disponible pour les autres » ou alors est-ce que nous disons « moi d'abord » Le premier obstacle à servir comme Jésus servait, c'est de nous mettre en priorité, c'est l'égocentrisme, que personne ne recherche son propre intérêt. mais que chacun d'entre vous pense à celui des autres. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Est-ce qu'on met nos propres intérêts en premier ou est-ce qu'on met celui des autres? Dieu nous donne un objectif, le servir en servant les autres. Et pour cela, ça veut dire être disponible. Le deuxième obstacle, c'est le perfectionnisme. Il y a beaucoup de lettres dans ce mot, ça doit valoir beaucoup de points au Scrabble. Le perfectionnisme. Attention, il y a deux N, hein, n'oubliez pas. Le perfectionnisme. Ça va, je vous laisse le temps d'écrire parce que ça prend plusieurs lettres. C'est le deuxième obstacle. Le perfectionnisme. On veut faire les choses d'une manière parfaite. Si bien qu'on dit, c'est pas la peine que je le fasse parce que je le fais pas bien, moi. Il y en a qui font mieux que moi. C'est pas la peine que je serve Dieu parce que je suis pas le meilleur. Si on attendait les meilleurs pour servir Dieu, on attendrait longtemps. Si vous aviez attendu le meilleur pasteur pour cette église, vous attendriez encore parce que vous n'avez pas eu le meilleur. Comprenez que si on veut être parfait, on cherche la perfection, la perle rare, on veut quelque chose de parfait. On ne fait jamais rien quand on veut quelque chose de parfait. Le perfectionnisme est un obstacle. Salomon pouvait dire, l'Ecclésiaste, pouvait dire Ecclésiaste 11:4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Vous savez, quand on veut réfléchir et chercher le meilleur moment, la situation la plus propice, la situation idéale, on va attendre longtemps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. On va dire, moi je veux attendre là vraiment la meilleure situation pour, je sais pas, quelqu'un veut acheter une maison, il veut la meilleure situation, là c'est pas encore le temps, on attend, on repousse. Puis des années après, il n'y a toujours rien. Quand on veut être trop parfait, quand on cherche le perfectionnisme, et quand dans l'Église, on veut faire les choses d'une manière parfaite, est-ce que ça veut dire qu'il faut bâcler? Non. Mais ça veut dire que Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous engager dans son service. Et n'attendez pas d'être parfait pour servir Dieu. Certaines églises ont comme principe l'excellence. Il faut l'excellence. Et c'est bon de viser l'excellence. Mais il y a un danger à cela. C'est de dire que quand on n'est pas excellent, ben on ne peut rien faire. Si on n'a pas un musicien excellent, on n'en veut pas. Si on n'a pas un conducteur de chant excellent, on n'en veut pas. Si on n'a pas des gens diplômés à l'éducation chrétienne, on n'en veut pas. Et si on cherche l'excellence et qu'on est perfectionniste, on se retrouve avec plus personne à servir dans l'Église. Parce que personne n'est parfait. Et si notre niveau d'exigence est trop élevé? À Saddleback, l'église de Rick Warren, qui est l'instigateur de ces 40 jours, un seul but, eux, leur principe, c'est pas celui de l'excellence, mais c'est le principe du suffisamment bien. On fait du mieux qu'on peut. Et on est content avec le mieux qu'on peut. Faites de votre mieux. Votre mieux sera peut-être pas parfait, mais c'est bien. Il vaut mieux faire de son mieux que rien faire du tout. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on le serve en y mettant notre cœur. Et comme on disait la semaine passée, ce qui est important pour Dieu, c'est davantage notre caractère, ce que nous sommes, plutôt que ce que nous faisons. Si on veut mettre tout l'emphase sur ce que l'on est en train de produire, on va s'enorgueillir en disant « voilà ce que moi j'ai fait ». Et qu'on peut dire « Seigneur, je veux te servir du meilleur que je peux ». Oui, on ne veut pas donner à Dieu des choses qui nous coûtent rien. On ne veut pas donner à Dieu des sacrifices avec des animaux boiteux. Hein, si je reprends des exemples de l'Ancien Testament. Mais qu'on donne le meilleur, oui, qu'on donne le mieux, mais qu'on n'attende pas d'être parfait pour servir. quelqu'un joue un peu de piano, n'attend pas d'être parfait pour servir. Si on attend d'être parfait, et je le dis au niveau de la jeunesse aussi, si on attend que les jeunes soient parfaits pour servir, on risque d'attendre longtemps. Mais il faut les encourager, leur donner cet esprit de service et de dire ton talent, ce que tu as reçu, mets-le au service de Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin à lutter contre le perfectionnisme. C'est un obstacle. De dire je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon, ce que je fais, ce n'est pas correct. Non. Parce que si tu cherches, finalement, tu ne vas rien faire. Un peu comme celui qui dit, j'attends un temps idéal pour parler de Dieu à mon voisin. Si tu attends le temps idéal pour parler de Dieu à ton voisin, je veux dire, fais attention à ne pas manquer le temps, à ne pas manquer la saison, à pas, en toute occasion, favorable ou non. Et c'est le même principe pour le service. Le troisième obstacle au service, au niveau de la disponibilité du service, c'est le matérialisme. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il ne peut pas y avoir d'un côté le royaume de Dieu et de l'autre côté la richesse, l'argent. Comprenez qu'on ne peut pas construire pour le royaume de Dieu ou et construire pour la richesse. Vous ne pouvez, dit Jésus. Ce n'est pas possible de servir Dieu et Mammon. Mammon, littéralement, c'est le Dieu de l'argent. C'est ce que ça veut dire dans la signification de ce mot Mammon en araméen. C'est le Dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Laissez-moi vous dire que les pasteurs savent bien qu'on ne s'enrichit pas en étant pasteur. Et qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne dit pas, je décide d'être pasteur parce que c'est comme ça que je vais gagner ma vie et que je vais remporter beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça l'objectif. Si je voulais gagner beaucoup d'argent, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Vous me suivez? Et si je le dis au niveau du pastorat, c'est vrai au niveau du ministère. C'est vrai au niveau du service. On ne peut pas avoir deux objectifs qui sont opposés. Quand on sert les autres, c'est pour les autres. Quand on veut construire les richesses, c'est pour nous-mêmes. Non? La plupart des gens qui donnent leur vie pour les autres et qu'on prend les plus grands modèles que le monde peut connaître, ceux qui sont là, sous les lumières des projecteurs, sont des gens qui ont consacré leur vie pour les autres et ne se sont pas enrichis. Et quand on voit les gens qui se sont enrichis dans notre société, ce n'est pas des gens qui ont consacré leur vie pour les autres. Ils ont consacré leur vie pour eux. Le matérialisme peut être un obstacle. Et j'aimerais vous encourager à ne pas mettre votre carrière avant Dieu. À ne pas mettre vos rêves avant Dieu, ou une recherche de l'argent avant Dieu. Oui, il faut de l'argent pour vivre, et vous avez des responsabilités pour prendre soin de votre famille, et c'est important. Mais servir Dieu, c'est servir les autres, et c'est opposé à la recherche, à la construction du royaume des richesses. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'or et l'argent. L'or et l'argent passeront. On n'emmène pas son or et son argent une fois qu'on est mort et que l'on va au ciel. Mais ce que l'on a construit dans le royaume de Dieu, ça reste. C'est éternel. Jésus dit, investissez là où il y a le trésor, dans un trésor céleste, plutôt que dans, là où il n'y a pas la teigne et la rouille, plutôt que d'investir dans de l'or qui est périssable. Aux États-Unis, il y a quelques années, il y a toutes sortes, vous savez, il y en a, ils investissent dans des actions. Si vous aviez mis 1000 dollars dans, Enron, le pétrole là, t'es 1000 dollars dans Enron, quelques mois plus tard, ça valait 40 dollars. Il y a Nortel aussi qui a chuté comme ça. Vous voyez, il y en a qui ont mis beaucoup d'argent. Et même à un moment, Rick Warren, et je crois que le témoignage sera sur Internet ce soir, il disait, mettez 1000 dollars dans du Coca-Cola, pas une action, il dit, dans les bouteilles de Coca-Cola, et vous buvez pour 1000 dollars de Coca-Cola, et quand vous allez rendre les consignes, vous aurez pour 224 dollars de consignes. Il dit, finalement, ça rapporte mieux qu'Enron, et en plus, vous avez bu du Coca. Bon, ça pour dire qu'investir dans les richesses, investir dans les choses du monde, il n'y a rien de fiable, il n'y a rien de sûr, et c'est de l'argent qu'on n'emporte pas. Mais investissez dans le royaume de Dieu. Servir Dieu, c'est investir dans le royaume de Dieu. Le matérialisme est là, et c'est un obstacle. Deuxièmement, servir comme Jésus, ça signifie être reconnaissant. Servir comme Jésus, ça veut dire être reconnaissant. Reconnaissant. Jésus pouvait dire, je te rends grâce. Il est reconnaissant. Il rend grâce à Dieu. Alors qu'il est là dans une situation critique, il y a un mort, Lazare, qui est là, mort depuis 4 jours. Jésus dit, je te rends grâce, Seigneur, pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir te servir au travers de cette circonstance. Jésus rend grâce, on voit bon, au travers de Lazare, mais on le voit dans d'autres circonstances, Jésus rend grâce dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans le psaume 100, verset 2, il est dit, « Servez le Seigneur avec joie, servir Dieu avec joie. » Et laissez-moi vous dire que quand on sert Dieu, il faut qu'on le serve avec joie. Sinon, ce n'est pas la peine de servir Dieu. Dieu s'intéresse à votre cœur, de tout votre cœur. Quelqu'un qui viendrait et qui dirait, moi j'aimerais servir Dieu, j'aimerais servir les autres, mais je le fais parce que j'en ai vraiment pas envie. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je vais le faire en chialant, je vais le faire en râlant, je vais le faire avec la grimace, avec une mauvaise tête. Ne faites rien. Vous méprisez Dieu quelque part et vous ne l'honorez pas. Si vous dites, moi je veux servir Dieu, mais je le fais à contre-cœur, mais quelle est la gloire que Dieu peut en tirer là-dedans? Dieu attend de vous que vous soyez des serviteurs joyeux et de dire, je sers Dieu de tout mon cœur. J'ai de la joie à servir Dieu. Dieu ne veut pas vous rendre malheureux au travers d'un service. Dieu ne veut pas vous mettre sur votre épaule un joug pesant, vous allez dire, je suis plus capable. Cher Dieu dans l'Église, dans tel ou tel ministère, mais je suis plus capable, qu'est-ce que je fais là? Vous puissiez servir avec joie, rendre grâce à Dieu, être reconnaissant pour l'opportunité que vous avez, d'être, comme dit l'apôtre Paul, collaborateur avec lui. Un premier obstacle que l'on trouve pour servir Dieu comme Jésus, d'une manière reconnaissante, le premier obstacle, c'est comparer et critiquer. Comparer et critiquer. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre, qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Ne comparez pas. C'est pas notre affaire. C'est l'affaire du maître. Et beaucoup vont être découragés en comparant. Ah, moi, je joue juste un peu du piano, mais par rapport à Gaston. Vous vous souvenez de Gaston Turgeon qui était venu accompagner François et Lina Brouillet, un virtuose. Oh là là, Gaston, il joue tellement bien du piano, je suis tellement poche à côté, c'est pas la peine que je joue. Il est trop bon, moi je suis trop mauvais. C'est pas la peine que je serve Dieu parce que lui, il est tellement bon. Il est meilleur que moi. Et si on compare, eh bien ça peut nous décourager quelque part et dire, ben, les autres font mieux. C'est pas la peine que moi je fasse. Si on compare aux autres, eh bien on peut venir amener du découragement, déjà pour nous-mêmes. Ne comparez pas votre travail avec celui d'un autre, dans le sens que faites du mieux que vous pouvez. Si un autre fait beaucoup mieux, tant mieux. S'il fait moins bien, tant mieux. faux. Ne comparez pas le travail d'un autre. Vous savez, dans la parabole des talents, il est dit que le maître a donné à l'un 5 talents, à l'autre 3, à l'autre 1. Jamais le maître ne va comparer en disant « toi t'en as eu 5, toi t'en as eu 1 ». Ce qu'il attend, c'est qu'on soit fidèle dans ce qu'on a reçu. Et dans celui qui a reçu 5 talents, il va lui dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Mais à celui qui en a reçu 3, il ne va pas dire « toi t'en avais moins », il va lui dire pareil « c'est bien ». Je suis aussi, le maître est aussi content de celui qui avait 3 talents que de celui qui en avait 5. Pourquoi ? Parce que celui qui en avait 3 a mis à profit ses 3 talents et les a fait fructifier. Et celui qui en avait 5 a fait fructifier ses 5 talents. Et ce qui est important pour Dieu, c'est pas le nombre de talents, mais c'est ce qu'on en fait. Et de la même manière, ce qui est important pour Dieu, c'est pas que vous soyez un virtuose capable de grandes ou de grandes choses, mais c'est qu'avec le peu que vous avez, vous soyez fidèle et vous soyez trouvé fidèle. Le deuxième obstacle, c'est les mauvaises motivations. Servir Dieu avec de mauvaises motivations. Servir Dieu pour se montrer. Servir Dieu pour être en premier. C'est un obstacle. Le serviteur, c'est un serviteur qui se dit « je suis un serviteur inutile ». Il ne sert pas pour faire du spectacle et un show-off, mais il sert pour que Dieu soit honoré au travers de son service. Troisièmement, servir comme Jésus, ça signifie être fidèle. Être fidèle. Jésus pouvait dire dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dites-moi, nous, quand nous allons monter au ciel, vous allez au ciel ? Si vous n'en êtes pas sûr, c'est le temps de vous poser la question. Dieu a préparé une place pour vous. Et Jésus est le médiateur, le sauveur qui veut vous conduire vers le Père. Il est le seul chemin. Quand on va se retrouver devant Dieu, est-ce qu'on pourra nous aussi lui dire « j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Seigneur, tu m'avais donné une œuvre. Tu avais préparé des œuvres d'avance afin que je les pratique. J'arrive devant toi, Seigneur, et je peux dire « j'ai tout accompli ». J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Laissez-moi vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai pas encore achevé l'œuvre que Dieu m'a donnée à faire à Drummondville. Mais ça s'en vient. Seigneur, on travaille pour ça. Mais qu'on puisse être trouvé fidèle et ne pas lâcher en route. Et que le Seigneur dise, bon, ben, t'as commencé et puis après tu as abandonné. T'as commencé un service, t'as commencé à construire et tu laisses la construction en ruine. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de bâtiment, des gens qui construisent, puis qu'après, les travaux s'arrêtent en plein milieu, et ça reste en ruine pendant des mois, des années. Et il y a eu toutes sortes d'efforts qui ont été investis là-dedans pour rien. Servir comme Jésus, ça veut dire servir d'une manière fidèle. Aller jusqu'au bout. Achever l'œuvre. Accomplir fidèlement ce que Dieu nous a confié, ce qu'il nous a demandé à faire. Qu'on puisse dire, Seigneur, ce qui est important, c'est que je t'honore au travers de mon service. Peut-être que certains ont mal compris le mot ministère, et c'est vrai que c'est un mot, quand on dit ministère, on dit, ah, le ministère, ça c'est pour les pasteurs. Le ministère, c'est pour tous les chrétiens. Le ministère, littéralement, ça veut dire le service. Nous sommes tous appelés à servir. C'est le 4e objectif de Dieu pour notre vie. Vous êtes tous appelés à être dans le ministère, à servir Dieu, à servir comme Jésus a servi, c'est-à-dire d'une manière disponible, à être prêt à vous laisser déranger et à dire « Seigneur, c'est toi le service, le ministère » qui va passer avant, et je suis prêt à laisser interrompre certaines choses de ma vie pour te servir, en mettant de côté l'égocentrisme, ne pas déranger, Seigneur, c'est tes intérêts qui passent avant les miens. En mettant de côté le perfectionnisme, en disant, Seigneur, je ne veux pas attendre d'être parfait pour te servir. Ce que je veux le faire du mieux que je peux, et puis t'honorer au travers de ce service. Ne pas laisser le matérialisme être un obstacle à notre service, en disant, Seigneur, je ne veux pas construire pour les richesses d'en bas, mais je veux construire pour les richesses d'en haut. Servir comme Jésus, ça veut dire être reconnaissant, et réalisons que c'est un privilège que de servir. C'est un privilège que de servir. Et moi, je me considère comme privilégié que de pouvoir être là à servir Dieu en servant les autres. Et vous aussi, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour vous afin qu'il y ait de la joie dans vos cœurs, de la reconnaissance, c'est-à-dire, Seigneur, quel privilège j'ai de pouvoir te servir. Et que cette joie ne soit jamais entaché, bloqué, à cause de la comparaison ou de la critique. On peut se dire, Seigneur, que rien ne vienne nuire à cette joie et que je n'écoute pas la critique ou la comparaison des autres, mais que moi-même, je ne sois pas critique et que je ne compare pas mon œuvre ou celle des autres avec quelqu'un d'autre. Dieu est le juge et il est le seul. Sachant que nous, quand on regarde le travail de quelqu'un, on voit que le résultat. Mais Dieu, lui, y voit le cœur. Si aujourd'hui, on devait me montrer un dessin en disant « Tu penses quoi de ce dessin ?» Je dirais « C'est quoi ? C'est une vache ? C'est un cheval ? C'est pas bien beau, hein ?» Vous voyez, des fois, il y a ce genre de dessin. On dit, oh, c'est dessiné par un enfant de 4 ans. On dit « Franchement, j'en voudrais pas pour mettre dans mon salon. » Mais si l'enfant de 4 ans avait présenté ce dessin à sa maman en lui disant « C'est pour toi. Je t'aime, maman. » Elle dira « Oh, qu'il est beau ce dessin. Il est magnifique. » Vous me suivez? Parce que la maman, quand elle voit le dessin, elle ne voit pas les couleurs seulement. Elle ne voit pas ce que ça représente. Elle voit l'amour qui est dans ce dessin. Elle voit le geste. Elle voit le cœur. Et nous, quand nous regardons le travail des autres, quand nous comparons le travail des autres, nous voyons que l'extérieur, et nous pouvons dire peut-être, « Oh, ça, franchement, c'est un mauvais dessin. Le ministère d'un tel, pas bien beau. » Mais Dieu, lui, voit le cœur. Comprenez ça? Un cœur en disant, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je l'ai fait de tout mon cœur, pour t'honorer et te glorifier. Et ça, Dieu est content avec ça. Qu'on puisse faire attention aux mauvaises motivations. Et dernièrement, servir Dieu, c'est être fidèle. Que nous soyons trouvés fidèles. Avant d'aller plus loin, vous avez remarqué qu'il y a quelques chapeaux de cow-boy. J'aimerais inviter Gus. Vous connaissez Gus? Non? Gus a quelque chose de grave à nous dire. J'espère que vous avez écouté ce que Gus va nous dire. Hein? Si on t'entend pas assez, prends le micro. Hein? Qui n'ont pas de père spirituel. Il y a des besoins dans une église. Dieu attend qu'on travaille pour lui. Et laissez-moi vous dire que c'est quelque chose d'important que de se préoccuper de ce que Dieu attend de nous, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. On va là dans quelques minutes. Je vais vous inviter à descendre tous au sous-sol, en bas. Il y a ce qui s'appelle le salon des ministères, pas le saloon. Le salon. Et vous allez dire, mais c'est quoi cette affaire du salon? Pourquoi il y a des chapeaux de cow-boy? Ça, c'est pour que ça vous reste dans la tête et que vous l'oublierez pas. Ça, c'est sûr que pasteur en cow-boy, vous n'allez pas l'oublier. Mais maintenant, d'une manière plus sérieuse, une église en santé, c'est une église où tout le monde travaille. C'est comme une ruche. Il n'y a pas d'abeilles qui se reposent. Elles travaillent toutes. Et qu'on puisse dire ce matin, et j'encourage particulièrement ceux qui sont investis à aucun ministère, il y a une place pour vous dans un ministère. Je vous invite à visiter le salon des ministères. Il y a toutes sortes de kiosques. Il y a des bulletins d'inscription. Engagez-vous. Engagez-vous dans un ministère. Dieu vous attend à son service. Et il y a une place pour chacun d'entre vous. On va prier, puis on va descendre au salon des ministères. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous réalisons ce matin encore que tu nous appelles pour ton service. Que le quatrième objectif de notre vie, c'est servir Dieu en servant les autres. Seigneur, nous voulons réfléchir ce matin. Je te prie particulièrement de parler au cœur. Tu vois ceux qui te servent, de les encourager à te servir de bonnes motivations, de tout leur cœur, à renouveler leur force encore. Je te prie pour ceux qui ne te servent pas ou d'une manière peu concrète. Je te prie, Seigneur, de venir les convaincre ce matin. Je sais que tu as préparé une place pour chacun d'entre eux. Je pense particulièrement au ministère de l'Église qui ont tellement besoin d'hommes et de femmes qui disent « Moi, je vais servir ». Seigneur, nous savons que ton Église peut aller de l'avant et peut faire des grandes choses quand tout le monde s'implique. Seigneur, que ce soit vraiment ton esprit maintenant. Ces moments sont spirituels, soit ton esprit qui puisse venir convaincre, parler au cœur et guider chacun à la place, au poste, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre eux. Amen. Vous savez, Napoléon pouvait dire, il y a quelques années de cela, vous avez entendu parler de Napoléon. Napoléon pouvait pointer son doigt sur la carte, et alors qu'il montrait un pays qui s'appelle la Chine, Napoléon pouvait dire, il y a dans ce pays un géant qui dort, un géant ensommeillé. Et il suffit de pas grand-chose, si ce géant se réveille, ça va devenir une menace. Ça, c'est ce que disait Napoléon. Et laissez-moi vous dire que dans l'Église, il y a un géant qui dort. Que dans cette Église, il y a un potentiel incroyable pour bouleverser la ville de Drummondville. Il y a un potentiel incroyable pour voir la gloire de Dieu se manifester et faire de grandes choses. Il ne faut pas que ça ressemble à un géant qui dort. Que ce matin, le géant puisse se réveiller. Et surprenez-nous par votre implication. Je vous invite à descendre maintenant et à visiter le salon des ministères.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.